Bienvenue dans Aubercail, le podcast pour vous faire découvrir des solutions concrètes et éthiques afin d'améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et dans chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme vous, je me pose pas mal de questions pour rénover ou construire mon futur chez moi. Je vous propose donc de partir en quête des meilleures solutions adaptées à chacun d'entre nous et ça commence dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Naomi Scherer. Naomi, ça fait 7 mois que tu travailles chez Circouleur en tant que business developer. En quelques mots, Circouleur, c'est une startup qui a été créée en 2017 par Maëlys Gros. Elle est chimiste de formation. Son objectif, du coup, avec ses équipes, c'est de créer une filière du recyclage pour les peintures usagées. Simplement, l'entreprise récupère les fonds de peau pour fabriquer de la nouvelle peinture à appliquer directement sur vos murs. En ce qui te concerne plus personnellement, tu m'as fait part d'un parcours vraiment intéressant car tu as travaillé dans le milieu de l'aménagement intérieur et extérieur, notamment pour le salon Batimat. Ton parcours t'a amené à te rapprocher du zéro déchet, que ce soit dans la sphère professionnelle comme personnelle. On va en parler. Tu as aussi un projet avec ton mari pour vulgariser le réemploi en construisant une maison plus performante énergiquement. Bref, vous l'aurez compris, avec Naomi, on va parler aujourd'hui du sujet de l'économie circulaire, de la décoration responsable et plus particulièrement de la peinture et du réemploi. Est-ce que j'ai tout bon jusqu'ici, Naomi ?
Oui, c'est parfait, Caroline. Bonjour à tous.
Ok, très bien. Bon, du coup, on va commencer cet épisode avec un petit jeu pour se mettre directement dans le bain. Donc, tu m'as préparé une vérité et deux mensonges sur notre thématique du jour. Du coup, je t'écoute pour me les donner et à moi de trouver la bonne réponse.
Très bien. Alors, je commence. Notre impact, donc je parle de Circouleur. Hein. L'impact des peintures Circouleur est divisé par 5 versus des peintures classiques. Donc, okay. L'impact carbone. Ensuite, nous recyclons n'importe quelle peinture. Et le dernier, tous les vendredis matin, nous faisons un petit déjeuner écolo.
Effectivement, ça ne va pas être évident.
Ah non.
La première, tu me disais que c'était
L'impact carbone des peintures des Circouleur est divisé par 5 versus une peinture classique en économie linéaire.
Ok. Eh ben, j'ai envie. Même si je pense que c'est tout à fait probable que tous les vendredis matin vous faites un déjeuner, je vais dire la première. Est-ce que j'ai raison?
Ok, c'est la vraie?
Oui, c'est la vraie.
Non, c'est pas la vraie.
Ah, dommage. Est-ce que tu peux nous les expliquer rapidement?
Oui. Alors donc la vraie, en effet, c'était tous les vendredis matins, on fait un petit déj écolo. L'idée c'est de parler des sujets de transition écologique dans l'équipe et on est tous plus ou moins engagés écologiquement, qui plus qui moins bien sûr, à son propre niveau. Et l'idée, c'est vraiment d'échanger sur n'importe quel type de sujet, que ça soit le chauffage, le slow fashion, que ça soit vraiment n'importe la déco, le zéro déchet, les jouets pour enfants, tous sur des thématiques de transition écologique. La première fois, c'était notre impact carbone est divisé par 5 versus une peinture classique. Alors, c'est faux. Parce que nos peintures sont divisées par 12, presque 13, l'impact carbone par rapport aux peintures classiques. Donc c'est
beaucoup mieux.
Ouais, c'est beaucoup mieux, tout à fait. Pourquoi? Ben, je vais l'expliquer tout à l'heure. Mais chez Circouleur, donc on fait une peinture recyclée, donc on a introduit l'économie circulaire dans l'univers des peintures. Et nous, on agit dans les deux étapes d'une vie d'une peinture, d'un cycle de vie de peinture. Qui est la plus impactante possible, c'est-à-dire l'extraction de la matière première qu'on évite, parce que nous, notre matière première, c'est de la peinture recyclée qui est en fin de vie. Et ensuite, bien sûr, la dernière phase de la vie d'une peinture, c'est-à-dire l'incinération. Nous, on évite l'incinération et on la récupère jusqu'à ce moment-là, juste avant, pour pouvoir la reformuler et la recycler. Et ensuite, donc j'ai dit, nous recyclons n'importe quelle peinture. Ben ça aussi c'est faux parce que chez Circouleur on fabrique en peinture acrylique. Donc on est sur des peintures à base aqueuse.
Ok. Super. Ben merci beaucoup.
Voilà.
J'aurais dû faire plus confiance à la nourriture et au petit déjeuner du.
Tu vois. Ah bah oui, nous les petits déjeuners c'est toujours important.
Je le saurai pour la prochaine fois. Alors écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Et de partir d'abord sur la définition peut-être de ce que c'est l'économie circulaire, comment tu t'es intéressée à l'économie circulaire, qu'est-ce qui s'est passé pour toi par rapport à ce sujet, quoi.
Oui. Aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est un grand sujet pour moi et disons que j'essaye dans toutes mes actions personnelles et professionnelles de l'intégrer. Donc moi, j'ai 33 ans et je me souviens encore quand j'étais petite, mes grands-parents, ils m'ont toujours appris à ne pas gaspiller, à éteindre la lumière, à éteindre le robinet pendant quand je lavais les dents, etc. Et donc ça, c'était toujours partie de moi en grandissant. J'accompagnais tout le temps ma maman sur les brocantes pour chiner des meubles, des assiettes, des vases, etc. Et comme donc je suis italienne, peut-être ça s'entend de mon accent, l'art c'est quelque chose de très important en Italie et la restauration, etc. Et en Italie, j'avais fait donc au lycée, j'étais dans un lycée d'art. J'avais étudié l'histoire de l'art et la restauration et l'architecture. Et du coup, quand j'ai dû décider mes études à la fac, j'ai fait des études à la faculté d'architecture de Gênes, en Italie, donc chez moi. Et je suis diplômée de une licence en design du produit et de la communication. Donc vraiment le design et la conception des produits. Donc ça, c'était ma formation. Et de l'autre côté, j'ai toujours eu une passion pour l'organisation des événements, tout ce qui était événementiel, l'organisation, c'était vraiment ma passion. Et du coup, dès que j'ai fini mes études, je me suis tout de suite orientée vers cet univers où finalement, pour une façon ou pour l'autre, j'ai toujours travaillé donc dans l'événementiel, dans les salons, mais côté, c'était des salons qui étaient vraiment vers le côté design, architecture. J'ai travaillé d'abord sur le salon Maison Objet à Paris. Et ensuite, comme tu as bien dit, en effet, j'ai travaillé pendant 7 ans sur le salon Bâtiment et de Bain, donc le salon du bâtiment et des solutions du bâtiment et de la salle de bain. Et j'ai adoré. Enfin, c'était vraiment, j'ai trouvé l'architecture un sujet hyper intéressant. Mais c'est vrai que même quand on est sur les salons, j'ai voyé tout ce qui après se jetait à la fin des salons, que ça soit dans les stands, dans les allées, etc. Enfin, ça me faisait vraiment chaque fois mal au cœur. Et ensuite, en fait, ma vie professionnelle et ma vie personnelle, on fait le parcours écologique plus ou moins en même temps, parce que quand j'étais donc chez Bâtiment, j'ai eu ma première fille, ma fille quand j'habitais à Paris, c'était en 2016, et en fait, je voulais vraiment essayer de lui faire à manger moi-même, qu'elle ne mange pas des repas préparés ou des choses comme ça. Et du coup, vraiment, j'ai commencé à intégrer cette démarche plus écologique et plus saine dans notre famille, en faisant les compotes, le pain, etc. Donc ça s'est intégré assez rapidement. Et en même temps, en fait, donc au titre professionnel, j'ai pu faire une très belle évolution au sein de l'équipe de Bâtiment parce que j'étais devenue directrice de clientèle pour un secteur, donc le secteur de l'aménagement intérieur-extérieur, qui m'avait toujours passionnée parce que justement c'était ma base avec le design et l'architecture. Et en fait, j'ai découvert que il commençait à y avoir il y a 5-6 ans des solutions de plus en plus écologiques, le cradle to cradle, donc des produits qu'on peut suivre leur cycle de vie et pouvoir les récupérer à la fin des chantiers, par exemple. Et donc il y avait des fabricants, des gros colosses, par exemple type Tarkett, qui font des sols souples, qui proposaient de plus en plus, là aujourd'hui ils sont vraiment leaders dans ce marché, des solutions d'économie circulaire. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai cité eux, mais il y en a plein. Par exemple, il y a le fabricant de carrelage néerlandais Mosa, M-O-S-A, qui fait aussi des produits recyclés, par exemple. Il y en a plein d'autres. Et du coup, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce sujet-là. Et en 2021, donc c'était l'année dernière, j'ai voulu suivre deux MOOC, un organisé par Les Canaux, donc à Paris, l'association à la Villette, sur le réemploi des matériaux du bâtiment. Donc il y avait 3 sessions, un sur la déco, un sur le design et l'autre sur l'architecture, 3 niveaux. Et un MOOC organisé par l'ADEME, toujours aussi sur le réemploi des matériaux du bâtiment. Je suis tombée amoureuse de ce secteur. J'ai trouvé que c'était vraiment la solution idéale pour les entreprises, pour les grands groupes industriels qui fabriquent, les grands constructeurs. Et ça s'est fait au même temps que la recherche de ma maison, de ma maison avec mon mari. Pendant le confinement, on fait partie de ceux qui ont décidé de tout changer, d'aller vivre à la campagne et changer complètement de vie. Il y en a beaucoup en France qui ont fait ça et ailleurs aussi. Et nous, on est vraiment la cible de on va dire, bobos parisiens qui, on en avait marre de vivre à quatre dans un petit appartement parisien. Et quand on a commencé à chercher la maison, donc c'était fin 2020, début 2021, c'est donc au moment où j'ai faisais ces MOOC. Les MOOC, ce sont, je sais pas, je l'ai pas dit tout à l'heure, les MOOC, ce sont des formations en ligne gratuites. MOOC, ça veut dire Massive Online Open Classes. C'est oui. des formations gratuites en ligne. Il y en a vraiment de toutes sortes, tout type.
On peut en trouver un peu partout, oui. Effectivement, c'est super intéressant.
Ouais. Et donc, on était en plein recherche de la maison et quand on l'a trouvée, là, enfin, on y est, mais quand on l'a trouvée, il y avait tout à faire. Et un jour, je suis tombée sur un blog, il faudrait que je le retrouve, qui parlait des solutions écologiques pour la maison. C'était plus pour faire du zéro déchet, par exemple la lessive maison, la recette de lessive maison, la vaisselle, etc. Et du coup, en regardant ce site, j'y trouve, là, j'ouvre sur la partie déco et je découvre une marque de peinture recyclée. J'ai dit, tiens, ça c'est intéressant, je connaissais pas ça. Et en fait, j'ai découvert donc la marque Circouleur. J'ai dit, mais waouh, c'est quelque chose ça. Et donc, je regarde mon mari et je lui dis, tu sais quoi, je pense que j'ai une idée. J'aimerais faire un maximum de recyclage et réemploi dans la construction de notre maison. Je connais pas encore toutes les solutions qu'on peut avoir, mais je voudrais faire ça. Et tiens, regarde, j'ai trouvé la peinture qui s'adapte parfaitement à ce que je cherche. Et donc, pendant des mois et des mois, j'ai suivi Circouleur. Et quand j'ai vu qu'il y avait une offre d'emploi il y a un an exactement, je me suis dit, c'est pour moi.
Voilà.
Il y avait déjà mon nom, en fait, sur l'offre d'emploi. Et voilà. Donc, il faut que j'aille. Et en effet, j'ai trouvé devant moi deux femmes extraordinaires. Donc, Maëlys, qui est la présidente et fondatrice, et Maëlys Gros, et donc Marion Rito, qui est l'associée de Maëlys, qui je félicite parce qu'elle vient d'avoir deux jolis bébés, deux garçons. Et donc c'est ma chef, et elle est là. Ouais. Et elle a eu donc l'ouverture d'esprit d'accepter qu'une personne puisse faire 100% télétravail, parce que l'entreprise Circouleur est basée à Bordeaux, et moi je suis physiquement basée à côté de Lyon, dans le Beaujolais. Donc ce n'était pas évident, mais du coup je gère mon portefeuille client de chez moi, de la maison.
Ok, super. Et du coup pour juste revenir par rapport à ton projet de maison, donc dans ce cadre-là, tu m'avais fait part que tu avais participé du coup au trophée du bâtiment circulaire en 2022, donc cette année. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus du coup ce projet de maison performante, comment ça a été quoi ton cheminement et comment je veux faire si je voulais faire quelque chose de similaire, par exemple?
Tout à fait. Donc, nous, on a la rénovation de notre maison. Donc, on l'a gérée en tant que particulier. Donc, ça n'a rien à voir avec ma vie professionnelle. Donc, c'est vrai que j'avais des connaissances qui m'ont pas mal aidée dans certaines démarches, mais je l'ai fait vraiment à titre personnel parce que j'étais convaincue que, enfin, rénover en maison, c'est extrêmement impactant au niveau de carbone. Enfin, c'est vraiment pas écologique. Et du coup, moi, je voulais trouver vraiment être cohérente avec mes idées et je voulais... mes valeurs exactement et pouvoir me sentir bien malgré la rénovation de ma maison. Et donc ça a commencé parce que donc nous avons pris une architecte qui s'appelle Julie Tellet. Julie Tellet, je l'ai connue lors d'un podcast pareil. Elle est intervenue sur un podcast pour parler justement de réemploi des matériaux du bâtiment. Et donc c'est une architecte lyonnaise qui est membre du CFAI, c'est le Conseil français d'architectes d'intérieur, le pôle action d'architectes d'intérieur de Rhône-Alpes. Et elle, elle est vraiment spécialisée en réemploi. Au-delà de ça, elle est aussi présidente d'une plateforme de réemploi des matériaux du bâtiment, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Mineka. Et en effet, dans cette démarche qu'on, nous, on voulait dès le départ faire des travaux écologiques et faire du réemploi dans notre maison, et du coup, il nous a paru évident de choisir un architecte qui puisse nous accompagner dans cette démarche. Les autres architectes qu'on avait vus, ils étaient aussi bien, mais c'est vrai qu'ils n'avaient aucune connaissance et ils ne pouvaient pas nous accompagner dans cette démarche de pouvoir utiliser des produits recyclés, de réemploi, upcycle, etc. Et donc, Julie est venue visiter la maison. Moi, je lui avais fait part de mon cahier de charges. Mon cahier de charges, c'était utiliser un maximum de produits de réemploi. Et la pauvre, ben, on s'est retrouvés à tout faire en réemploi, finalement. À un moment, elle m'a dit, mais non, mais attends, là, ça fait beau, ça fait déjà beaucoup, hein. Et, non, j'ai trouvé devant moi une personne qui était vraiment à l'écoute et qui avait vraiment les mêmes valeurs que moi et avait envie de pousser à l'extrême cette démarche pour pouvoir justement l'utiliser comme cas d'étude. Et donc, on est parti par l'état des lieux. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Par exemple, est-ce que les radiateurs, on peut les récupérer ou pas, par exemple. Ensuite, on a regardé dans le salon, dans l'ancien salon, il y avait des moulures. Est-ce que les moulures peuvent être démontées sans être détruites? Et après, on peut le remonter, par exemple. Voilà, enfin, la maison, elle était vide, donc on n'avait pas beaucoup de choix sur ce qui restait. Mais l'idée, c'était vraiment le parquet, par exemple. Dans trois pièces, il y avait le parquet. Une pièce est devenue la salle de bain, donc on pouvait pas le garder, mais dans les deux autres pièces, on s'est dit, est-ce qu'on le remplace ou on garde celui-là? Donc l'idée, c'est de le poncer, de le remettre à neuf, mais de garder toujours le même parquet. Donc ça, c'était l'état des lieux initial. Et ensuite, on s'est dit, quels sont les autres produits qu'on peut utiliser en remploi? Et le premier, mis à part la peinture qui était en évidence, donc circuleur, le premier, ça a été, c'était une surprise parce que je m'y attendais pas du tout. La façon dont c'est né, c'est vraiment hyper simple. C'est une question budgétaire. On s'est rendu compte en regardant le budget de la maison, les travaux, surtout le budget des travaux des maisons, qu'on n'avait pas assez de budget pour après s'acheter une cuisine neuve, parce que les cuisines neuves, on sait très bien, ça coûte entre 10 et 15 000 euros pour une grande cuisine. Et nous, on avait déjà calculé, 160 000 euros de travaux de la maison pour tout remettre à neuf. Et on n'avait plus un budget supplémentaire. Et donc, par hasard, je ne sais pas comment c'est né, mais j'ai commencé à regarder sur Le Bon Coin. Et je me suis aperçue qu'il y avait plein de gens qui vendaient des cuisines de chez eux, plein de particuliers qui vendaient leur cuisine. Parce que soit ils vidaient un appartement ou maison, soit ils voulaient changer la cuisine et du coup ils ne voulaient pas la jeter. Et j'ai trouvé un particulier à 10 minutes de chez moi en voiture qui du coup vendait sa cuisine avec tout, même tous les électroménagers. Et du coup, samedi après-midi, on est allé tous avec deux remorques. On a démonté la cuisine et on l'a ramenée chez nous. Et donc en faisant comme ça, après en plus je le fais sans parler à Julie, à mon architecte. Et quand je lui dis, mais c'est génial. Attends, est-ce que tu as les mesures des caissons de la cuisine? J'ai dit oui, je les ai. Donc j'ai tout envoyé. Et la première fois qu'il nous a fait après le premier vrai projet, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a repris les différentes mesures des caissons qu'on avait trouvées pour pouvoir justement les intégrer dans le nouveau plan de la maison.
Ok.
Et en effet, c'est très très simple. Pourquoi? Parce que les caissons, ce sont des caissons modulaires. Chacun a ses dimensions.
Oui.
Voilà, mais finalement, c'est modulaire. Donc, on peut les mettre en fonction de ce qu'on a besoin. Et aujourd'hui, on est en train de le faire parce qu'elle n'est pas encore finie. Mais on les a placés, on a mis un plan de travail. Le plan de travail, voilà, c'est une autre histoire parce que c'est beaucoup, c'est pas modulable en plan de travail. Mais les caissons, en fait, on les a reposés selon nos besoins. On a posé un évier qui nous convenait, pareil aussi issu d'un changement de cuisine. Et voilà, en fait, et on a une cuisine qui est parfaite, comme neuve. Et donc, il faut qu'on la repeint parce qu'elle n'est pas tout à fait à notre goût. Mais après, si on a un minima bricoleur, si on aime un peu bricoler, honnêtement, il n'y a rien de plus simple. Vraiment, la cuisine, c'était une des parties les plus simples à chiner, parce qu'il y en a vraiment partout, partout, partout. Et finalement, à la place de payer 10 000 euros pour 10, mais même 15 000 euros pour une cuisine, on en a eu pour 400 euros.
Oui, effectivement, ça fait un sacré gap entre les deux.
Tout à fait.
Et justement, là, quand tu me dis au niveau du réemploi, est-ce que tu as réussi aujourd'hui dans ton projet de partir vraiment des matériaux bruts? Par exemple, pour ce qui est l'isolation, je ne sais pas si tu as refait une partie de l'isolation ou jusqu'à effectivement des éléments ménagers comme des modules de cuisine, etc. Est-ce que tu as réussi jusqu'à présent à être complètement dans le réemploi et de réussir à prendre que des types de matériaux, soit que tu as été chiné ou soit qui ont été soit recyclés, quoi?
Alors, on a dû faire des choix parce que tout faire, surtout tous les deux, on a un travail à distance parce que mon mari travaille toujours à Paris et moi je travaille à Bordeaux. Deux enfants et une rénovation à s'occuper, on peut pas tout faire. Donc on a fait des choix, que ça soit au niveau budgétaire et aussi en termes de timing. Donc il y a certaines choses qui ont pu être faites même au niveau énergétique, dont par exemple l'isolation. J'ai omis de dire que la rénovation, ça s'est basé vraiment sur deux axes principaux. Donc un premier axe dans lequel je me suis vraiment personnellement occupée, c'était toute la partie réemploi, et mon mari qui travaille un peu dans le secteur plus ou moins de l'énergie, de la rénovation énergétique, et ben lui s'est occupé de la rénovation énergétique du bâtiment. Et en effet, nous avons choisi comme isolant. Alors notre rêve, c'était de faire une isolation par l'extérieur, en chambre. On aurait adoré faire ça, mais au niveau budgétaire, on n'avait pas le budget pour le faire. Du coup, comme de toute façon la maison a été assez grande, on a décidé de faire une isolation intérieure et on a utilisé de la ouate de cellulose. Il y a deux types de ouate de cellulose dans notre maison. Donc dans les murs, dans toute la partie mur, on a mis de la ouate de cellulose sous des tissus. Bon, ce sont des vieux jeans, etc. Et on a mis une épaisseur de 20 cm. Pourquoi? Parce que la ouate de cellulose est un tout petit peu moins performante par rapport à la laine des verres ou la laine des roches. Donc même si elle est vraiment, je crois, c'est jusqu'à 8 fois la baisse de l'impact carbone de la ouate de cellulose, elle est un tout petit peu moins performante. Donc on a fait
la résistance thermique peut-être.
Exactement, tout à fait. Donc on a fait des murs très épais de 20 cm, mais bon, finalement ça sent pas dans les pièces. Et après on a fait l'isolation des combles aussi. Et là, donc, on a soufflé toujours de la ouate de cellulose, mais c'est des papiers journaux. Donc, on a pris une entreprise du Rhône-Alpes, toujours, qui sont spécialisées dans la performance énergétique, dans l'isolation écologique. Et donc, c'est eux qui nous ont conseillé la ouate de cellulose. Et finalement, ce n'est pas plus cher que de la laine de verre ou de la laine des roches, finalement.
Est-ce que tu peux nous donner une fourchette à peu près.
Alors nous on avait, alors attends, je peux te dire même dans le détail combien on a payé pour l'isolation. On est à rénover, on avait les combles, c'est plus ou moins 120 mètres carrés au sol, les combles, et on a payé 4 800 euros.
Ok.
Enfin, nous, c'est ce qu'on a payé. Après la ventilation, on l'a payé 1 200 euros, mais de toute façon la ventilation, ça c'est obligatoire. Et pour je peux donner aussi les chiffres pour l'isolation classique. On est sur 40 000 euros, en sachant que c'est 40 000 euros pour l'isolation des murs avec le placo, enfin aussi avec le placo et les joints des placos aussi. Hein. Donc il n'y a pas que l'isolation en soi,
c'est aussi la finition aussi.
Il y a la finition, mais il n'y a pas la peinture.
Ok.
Il y a la préparation des murs dedans. Et finalement, je pense qu'avec la laine des verres, on aurait payé, 30 000 euros à la place de 39.
Ok, donc oui, il y a un petit delta, mais effectivement.
Il y a un petit delta, mais finalement, en fait, on a réussi à faire des grosses économies avec la partie réemploi. Donc finalement, en fait, on était même large sur la fin des travaux grâce aux matériaux de réemploi qu'on a pu utiliser.
Tout à l'heure, tu m'as dit que vous aviez un budget à environ de 260 000. Est-ce qu'aujourd'hui, vous respectez votre budget? Est-ce que par rapport à votre maison?
Alors, on est très, très calé. On a un Excel pour tout. On a créé les Excel avec les paiements des artisans. Est-ce qu'on les a payés? Quand est-ce qu'on les a payés? Combien il reste à payer? Et combien on dépense à chaque fois? Donc, moi, j'ai compté, je me suis fait un Excel pour voir vraiment quels sont les coûts qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et oui, je pense qu'on, enfin, j'ai les plus on y est plus ou moins. Ouais,
tout pour fait. Rénover une maison énergiquement positive, performante énergiquement et puis utiliser le réemploi. Donc
le réemploi, tout à fait. Alors, dans cette démarche, je n'ai pas mis le mobilier parce que ça, bien entendu, c'est pas forcément, ça ne rentre pas dans les démarches de aménagement intérieur et gros œuvres. Mais l'idée, c'est de faire aussi du recyclage avec les meubles, tout ce qui est meubles. Mais après, ça, voilà, ça, c'est drôle parce que c'est un sujet qui a toujours été démocratisé. Il n'y a rien de mal à acheter un meuble chiné sur Vinted ou sur Le Bon Coin ou sur
chez un brocanteur.
Chez un brocanteur. Mais en revanche, si on fait du réemploi avec du carrelage, c'est quelque chose de bizarre. Ou de la robinetterie, par exemple. Toute la robinetterie de notre maison est issue du réemploi, c'est-à-dire que j'ai l'acheté directement chez le fabricant qui a des produits de showroom ou par exemple des produits qui ont des petits défauts de fabrication esthétique et du coup les produits ne peuvent plus être mis en vente à la fois parce qu'ils ont par exemple une mini rayure ou ils étaient soit en showroom soit en stand donc ils ne peuvent plus être vendus mais ils fonctionnent très bien. Donc ça, je les ai achetés et j'en suis ravie parce que c'est vrai que pour produire un robinet, c'est vraiment hyper polluant. Il y a l'extraction de la matière première, en plus ça met des milliers d'années pour. C'est vraiment un produit qui est un cycle de vie qui est très très impactant et donc il y a des solutions pour tout.
C'est intéressant, même comme tu dis, par rapport jusqu'à la robinetterie. Et d'ailleurs, comment tu as fait, toi, pour justement les trouver? Est-ce que tu as été directement dans les salons et tu as été négocié sur les showrooms? Ou est-ce que tu connais des filières qui puissent exister si jamais demain, un auditeur ou comme moi, on a envie d'aller justement chercher ce genre de produit? Est-ce qu'il faut aller sur Le Bon Coin ou une autre plateforme?
Alors, ça c'est une bonne question et tout le monde me pose cette question quand je parle du projet. Alors c'est vrai que le fait que d'avoir travaillé sur le salon du bâtiment, c'est le mondial du bâtiment, ça m'a beaucoup aidé pour avoir des connaissances, des contacts, savoir où aller chercher. Il y a des plateformes des matériaux du réemploi qui se développent pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers. Et là, par exemple, je me suis, finalement, la plupart des choses, je les ai récupérées sur des plateformes qui sont destinées aux particuliers. Notamment, Le Bon Coin, c'est devenu mon meilleur ami. J'ai plein d'alertes sur Le Bon Coin par rapport à tous les sujets. Enfin, je suis devenue une pro des recherches sur Le Bon Coin. Et il y a une grosse partie du carrelage, par exemple, que j'ai chiné sur Le Bon Coin. Et après, il y a en effet, comme j'ai dit tout à l'heure, des plateformes qui se préparent, mais vraiment partout en France, dans toutes les régions, ils commencent à en avoir. Il suffit vraiment de mettre plateforme matériaux et emploi et après le nom de la région. Et je pense, je n'ai jamais fait cette recherche de cette manière, mais je pense que là, ça se trouve. Je suis en train de, à chaque fois que j'en trouve une nouvelle dans les différentes régions, même si ça ne me sert pas, je suis en train de la répertorier parce qu'en effet, il manque un endroit pour répertorier ces plateformes pour les particuliers.
On va peut-être pouvoir le faire sur notre média Aubercaille, ça pourrait peut-être être un...
oui, une piste, tout
effectivement.
À fait. Absolument. Et donc moi, il y en a. Alors donc je mets les trois endroits où je me suis fourni le plus. Donc c'est Le Bon Coin. Ensuite, donc il y a la plateforme du matériau du remploi du bâtiment. À Villeurbanne, donc qui s'appelle Mineca avec un accent sur le E, dont Julie Tollier, mon architecte, est présidente. Et là, je me suis fournie une grosse partie du carrelage aussi. J'ai trouvé du carrelage magnifique chez eux, donc je suis très contente. Et ensuite, l'autre plateforme que je conseille à tout le monde, Le fondateur s'appelle Emmanuel Morel et je l'adore. On est pratiquement venus copains. On se parle souvent pour le travail surtout, mais on se parle très régulièrement. Ça s'appelle ArtiConnex. Arti comme A-R-T-I et Connex avec deux N. Et c'est en plateforme des matériaux. Alors, ce ne sont pas de réemploi, mais c'est surtout des fins de chantier et des fins de collection. Du coup, c'est des matériaux neufs. Et c'est vachement intéressant parce que ça permet d'avoir des très bons produits de super qualité à des prix vachement intéressants. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ArtiConnex, ils sont basés à Nantes, à côté de Nantes. Ils ont deux plateformes, mais ils livrent partout en France. Donc moi, par exemple, j'ai passé en commande chez eux qui m'a été livrée. J'ai regardé les produits sur Internet par des photographies et après, ça m'a été livré directement chez moi à la maison.
Ok, bah, je mettrai les liens en description si on veut retrouver effectivement.
Tout à fait, donc Mineka, ArtiConnex, c'est ceux deux-là que moi j'ai utilisé pour ma maison. Et chez ArtiConnex, par exemple, j'ai acheté la baignoire. La baignoire, c'est pour la salle de bain des enfants. Donc la baignoire, elle est une baignoire de marque allemande très très haut de gamme qui s'appelle Caldeweih. Moi, je la connais du coup grâce à mon ancien travail à Idiobain. Et en fait, c'était un chantier à corps, donc des hôtels à corps, qui avaient prévu de mettre une quinzaine de baignoires dans leur rénovation. Et finalement, avant de poser la baignoire, ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus une baignoire, ils voulaient une douche. Et donc, Emmanuel d'ArtiConnex, il les a récupérés, il les a vendus à des prix... il y en a en permanence, en fait. Il y a toujours des aléas des chantiers qui font que finalement un matériau ou des surplus, par exemple, qui restent, des fins de chantier, qui restent. Et du coup, Emmanuel, il les revend à des prix très intéressants.
OK.
Et par exemple, chez lui, j'ai acheté aussi le parquet. Ça, c'est une grosse difficulté qu'il y a dans le monde du réemploi, c'est trouver les bons volumes. Ça, c'est la grosse difficulté. Je pense que les gens qui sont en train de m'écouter doivent dire, oh, oui, mais moi, je trouvais sur le bon coin un mètre carré de carrelage, qu'est-ce que je vais en faire? Déjà, alors, un mètre carré de carrelage, on peut faire une faïence, déjà. On peut pas faire une douche, malheureusement, mais on peut faire une petite faïence devant le meuble de la salle de bain. Mais donc, justement, l'avantage qu'il y a chez ArtiConnex, c'est que, par exemple, notamment par rapport au parquet, eux, ils travaillent avec un fabricant de parquet allemand qui produit une énorme quantité. Et les fins de collection, il lui reste entre guillemets, des petits volumes qui font plusieurs centaines de mètres carrés. Mais du coup, leurs négociants ne peuvent plus racheter parce que c'est pas assez important comme volume. Et donc, en fait, c'est ArtiConnex qui les récupère et il les vend. Moi, j'avais besoin de 67 mètres carrés de parquet. Jamais j'aurais pu trouver ailleurs 67 mètres carrés de parquet en réemploi ou en fin de collection si j'allais trouver chez ArtiConnex.
Donc c'est vraiment des bons plans effectivement quand on veut aller un peu plus sur le volume. J'allais te poser justement les questions au niveau des difficultés que tu as pu rencontrer. Donc le volume en fait partie. Est-ce que tu vois d'autres grandes difficultés dans la sphère effectivement réemploi et économie circulaire?
L'autre grand problème, c'était moi j'ai avec mon projet j'ai voulu je suis en train de parce que j'ai pas encore fini totalement je voulais démontrer qu'on peut faire du beau avec du réemploi. Et du coup pour faire du beau il faut des matériaux qui te plaisent. Chacun a ses goûts bien sûr, mais on n'est pas si on va sur le bon coin et on cherche du carrelage une fois sur 30 fois sur 31 on trouve des trucs moches qui ne nous plaisent pas et ils sont très difficiles. Du coup il faut vraiment trouver la perle rare et ça c'est la grosse difficulté du réemploi, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on trouve. Et du coup le mot d'ordre c'est anticipation, se mettre plusieurs mois à l'avance pour pouvoir trouver le bon matériau et après pouvoir le stocker. Parce que en effet, autrement, moi j'ai dû faire des concessions quand au carrelage parce que je n'arrivais vraiment pas à trouver le carrelage qui me convenait. Donc il y a une salle de bain et demie où j'ai fait vraiment du réemploi parce que dans une salle de bain j'ai fait 100% du réemploi des carreaux parce que j'ai trouvé les bons volumes avec les carreaux qui me plaisaient et je suis vraiment satisfaite à 100% de cette salle de bain. Et dans les autres salles de bain, je n'arrivais vraiment tellement pas à trouver le bon carrelage dans les bons volumes que j'ai dû faire des concessions. Mais du coup, je me suis quand même repliée sur une demi-solution, on va dire. J'ai trouvé un site internet grâce à Instagram qui s'appelle As de Carreaux, je ne sais pas comment on prononce, AS de Carreaux, comme carreau-sim, qui vend des, enfin, c'est du négoce, hein, c'est du négoce pour particuliers, un négociant de carrelage. Et en fait, sur leur site internet, ils ont des fins de collection, des fins de stock, qui vendent déjà à moitié prix, donc ça, déjà, c'est intéressant. Mais du coup, il peut y avoir soit des mini-volumes qui ont fait rien, mais tu peux avoir aussi des volumes plus intéressants qui permettent, eux, ils les vendent pas et du coup, ils les mettent à moins 50%. Donc oui, c'est du neuf, mais au moins, c'est entre guillemets, enfin, j'arrive à négocier entre guillemets entre le fait d'acheter, faire une commande de zéro et avoir du bon.
Ok. Puis c'est quand même effectivement des fins de stock, donc qui peuvent potentiellement après, à terme, s'ils ne sont pas vendus, soit jetés, soit
exactement,
soit mis au rébut.
Exactement.
Ok. Et pour terminer un peu sur ce projet, c'est quoi, de quoi es-tu le plus fier par rapport à ce projet? Ça a été ta grande fierté. Aujourd'hui, tu as décidé de te faire accompagner avec ton architecte. Est-ce que ça aurait été possible de le faire sans? Est-ce que comment?
Non, sans architecte, nous les particuliers, on n'a pas assez de connaissances pour pouvoir gérer un projet si neuf, si nouveau. Surtout que les artisans aujourd'hui ne sont pas du tout habitués à travailler avec du réemploi. Eux, ils le font eux-mêmes quand ils font du bruit, enfin, ils ont des restes, etc. Mais un particulier n'ose pas demander de poser des carreaux issus d'une fin de chantier ou une robinetterie avec un mini défaut qui peut y avoir derrière. Donc, sans l'architecte, je n'aurais vraiment jamais pu le faire. Et ma grande fierté, c'est l'intérêt qui provoque dans les gens. C'est vraiment ma grande fierté, c'est de dire, je fais partie des premiers qui ont en fait cette démarche, et surtout l'impact qui a eu vis-à-vis de, enfin, mon impact carbone, parce que j'ai pu calculer grâce au concours que j'ai participé, le concours du booster du réemploi. J'ai participé à un concours pour justement promouvoir le réemploi. Mmh. Cette démarche, exactement. Et du coup, j'ai pu calculer mon impact carbone. Donc, je vais vous dire, en termes de CO2 évité, j'ai pu éviter 6259 kilos de CO2 évité dans l'air, qui équivaut à 1464 mètres cubes d'eau, consommation d'eau évitée, et qui équivaut à plus de 8000 kilos de déchets évités. Et l'équivalent, c'est un équivalent de trajet Paris-Nice, 57, pardon, trajet de Paris-Nice en avion.
Ok, ça permet d'avoir effectivement une image de ce,
ouais,
que ça peut...
tout à fait.
De ce que ça peut donc, provoquer.
Oui, donc ça c'est ma grande fierté, c'est le peu d'impact que j'ai eu, le peu de déchets que j'ai pu générer et l'utilisation de la matière première qui était quasi zéro en fait.
Et c'est possible. Donc c'est ça qu'il faut retenir justement, c'est possible.
Tout à fait.
Et tout en gardant un budget qui est plutôt raisonnable et certes il faut du temps, c'est ça, du temps, de l'anticipation.
Oui, il faut du temps, de l'envie de chiner, parce que par exemple mon mari, lui il l'aurait jamais fait parce que lui il déteste faire ça. Moi j'adore, en plus j'ai fait des super rencontres sur le Bon Coin, j'ai rencontré quand j'allais chercher les carreaux, je me suis retrouvée dans des endroits, enfin toujours autour de moi, parce que je ne voulais pas aller au-delà de 20 km, je voulais pas pour l'impact justement de la voiture, mais j'ai fait des super connaissances, c'était génial.
Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et justement, du coup, après ce projet, donc tu nous l'as dit tout à l'heure, tu es arrivée à t'intéresser justement pour la finition, la peinture. Mm-hmm. Donc la peinture, donc qui vient de la société pour laquelle tu travailles, Circouleur. Donc Circouleur, on va peut-être faire un petit focus maintenant sur cette société et sur cette peinture. Circouleur, c'est une société qui a pour ambition de créer la première filière de recyclage pour les peintures. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce processus, comment ça fonctionne et en quoi ça consiste?
Absolument. Donc, comme tu l'as dit, Circouleur donc a créé la première filière d'économie circulaire dans le secteur de la peinture. Et nous sommes une société bordelaise, donc et on vient de fêter notre 5e anniversaire, donc on est encore tout jeune. mais on se développe bien. Donc, comment fonctionne? Donc, nous, oui, nous sommes une peinture recyclée. Qu'est-ce que ça veut dire, la peinture recyclée? La peinture recyclée, ça veut dire que dans nos pots de peinture, il y a jusqu'à 95% des matières qui sont issues du recyclage. Nous récupérons des peintures de fin de chantier dans des déchetteries. Donc, nous avons deux centres de tri où on récupère la peinture. Donc, une historique qui est basée en Nouvelle-Aquitaine et un nouveau qui vient tout juste d'ouvrir en Rhône-Alpes, où on récupère donc les fins de pots de peinture des chantiers pro et particuliers de ces deux régions. Donc, si vous faites partie de ces deux régions, bah, vous pouvez imaginer que votre peinture que vous envoyez en déchetterie, bah, elle va être recyclée. Et comment on la recycle? Donc, tout d'abord, il y a la première phase où nous, c'est une partie qui est, on externalise et on, c'est la déchetterie qui nous fournit les pots de peinture d'acrylique. Ensuite, on prend la main sur les pots, commence le process interne où nous avons une équipe de personnes qui sont d'ailleurs en insertion professionnelle. Qui prend les pots et il les ouvre et lit qu'est-ce qu'il y a marqué sur les étiquettes pour voir si la peinture est recyclée. On a bien sûr un cahier des charges qui est très très strict que nous pouvons pas diffuser parce que c'est notre secret pour savoir quelles sont les peintures, mais en tout cas nous on récupère les peintures recyclées acryliques pardon. Donc, on ouvre le pot, on regarde si la peinture est recyclable, on la transfère dans des grands fûts de 200 litres, on la divise par typologie de couleurs. Je vais pas vous donner un
méga
tout le panel. Donc, il y a un panel de couleurs. Et une fois que le fût est plein, il y a un échantillon, donc un petit échantillon de 0,5 litres, qui part en laboratoire chez nous, dans notre laboratoire à Bordeaux, où nous avons une équipe d'ingénieurs et chimistes qui réformule la matière pour la remettre à neuf. L'idée, c'est vraiment de la reformuler pour pouvoir garantir toujours d'avoir toujours la même peinture entre une production et l'autre. Et en fait, on a créé une gamme pour les professionnels avec des blancs et après une gamme pour les particuliers. Donc nous avons 14 coloris dans notre nuancier qui sont des couleurs plutôt pastels. Parce que vous souvenez probablement quand on était enfant et on faisait des mélanges de couleurs pour récréer tous nos couleurs, disons qu'un jaune vif ou un rouge, on pouvait pas le recréer. Du coup, ce sont des couleurs assez claires, il n'y a pas que du clair, mais ce sont des couleurs très tendances qui ont été faites avec mon agence, l'agence Péclairs à Paris. Et l'agence des tendances et ce sont des couleurs qu'on peut appliquer sur les murs et les plafonds, sur la boiserie, comme peinture classique.
En termes de performance, est-ce qu'elle répond à toutes
C'est une peinture très qualitative pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans notre processus de formulation, on revoit chaque process de fabrication de la peinture. Donc, on regarde la constance, la couvrance, la colorimétrie, la viscosité, tous les aspects vraiment techniques de la peinture. Et à chaque fois, on fait passer un contrôle, un test qualité pour être sûr que la peinture puisse passer à l'étape suivante. Donc, finalement, une fois qu'elle sort en production, la peinture, elle est toujours vérifiée à tous les niveaux et du coup, elle est très qualitative. Et ce qui est très apprécié aussi, c'est qu'il y a une peinture qui couvre très bien. Donc, nous, on conseille toujours d'avoir deux couches de peinture sur les couleurs ou sur les blancs. Mais il y a ceux qui font une couche et ça fonctionne très, très bien aussi.
OK. Donc, c'est pour se dire aussi qu'une peinture recyclée, ça peut avoir totalement les mêmes capacités qu'une peinture dite classique.
En termes de capacité, je dirais que c'est même meilleur parce qu'au-delà des parties techniques dont j'ai parlé, c'est aussi même pour la qualité de l'air intérieur parce que la peinture qui sert couleur, on a une meilleure qualité de l'air intérieur. Sur les pots de peinture, il y a toujours écrit les COV. Les COV, ce sont les composés organiques volatiles. Ce sont des composants très nocifs pour la santé si on les respire parce que c'est cancérogène. Et aujourd'hui,
ça, il y a toujours. Ça, qu'on nous dit toujours d'ouvrir les fenêtres quand.
Exactement, tout à fait, quand on repeint. Et je ne sais pas si vous voyez sur les peintures, il y a toujours écrit le niveau A+, A, B, C, etc., comme les électroménagers. Et ça, c'est par rapport à les COV. Et donc, chez Circouleur, on est sur du A+, en sachant que l'échelle du A+ va de 0 à 1000. Donc, l'échelle est très, très large. Et nous, nous sommes la seule peinture acrylique à avoir, on est à moins de 30 microgrammes par mètre cube. Donc, on est quasi zéro. Ça veut dire qu'on a, on contient quasi zéro COV dans notre peinture. L'explication est simple, mais en fait, les COV, donc les composés organiques volatiles, comme dit le mot, se volatilisent dans l'air quand on ouvre le pot et on commence à l'étaler sur la peinture, sur les murs ou sur le support. Mais puisque la peinture Circouleur, avant d'arriver Circouleur, a été déjà en peinture qui a été probablement mélangée, elle a changé de contenant. Et une fois qu'elle arrive chez nous, à plusieurs reprises, justement, on la mélange, on change de contenant, les COV, au fur et à mesure, dans le process de fabrication, se volatilisent. Mmh. Et donc, comme nous, on n'en ajoute pas, une fois qu'on fait l'étiquetage des pots, bah, finalement, les pots de peinture, nos pots de peinture sont très, très sains. Et c'est aussi pour ça qu'on est souvent prescrit pour des chambres d'enfants, pour des bureaux, pour des établissements scolaires aussi, parce que ça permet d'avoir une meilleure qualité de l'air intérieur pour les usagers et aussi pour la personne qui vit dedans et qui fait la peinture ou le peintre.
Ok. C'est super intéressant de se dire que, parce que c'est vrai que c'est pas des notions qu'on évoque souvent au niveau de la toxicité des produits. On en a parlé sur certains produits qui ont eu certains scandales, mais c'est vrai que sur la peinture, on se dit toujours, bon, c'est pas très grave, on ouvre les fenêtres et ça va aller. Mais bon, il y a toujours un résidu qui...
Tout à fait. Ça prend plusieurs jours pour que ça s'efface.
Tout à fait, oui. Mm. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment vérifier si sa peinture, elle est vraiment responsable? Est-ce qu'il existe des labels? Est-ce qu'il existe des choses pour vraiment contrôler? Alors, il existe Circouleur. Je ne sais pas s'il existe d'autres marques aujourd'hui, mais comment, entre guillemets, un particulier peut se dire, est-ce que ma peinture, elle est recyclée?
Alors, il y a deux choses. Et si elle est recyclée avant ou si elle est recyclée après, ce sont deux choses différentes. Et aussi la qualité de la peinture. Le circuit de recyclage de la peinture, nous sommes le seul à le faire dans toute la France et même en Europe. Nous sommes le seul fabricant de peinture recyclée. Nous sommes les seuls à recycler la peinture dans toute la France. En Europe, aujourd'hui, on n'existe pas. Il y a peut-être un fabricant en Belgique et j'ai entendu aussi un en Angleterre, mais non pas en gamme complète. C'est une collection d'un grand fabricant de peinture. Et donc aujourd'hui, la qualité, il y a plusieurs aspects d'une peinture. Au niveau de l'impact carbone, il n'y a pas beaucoup de solutions. Aujourd'hui, n'importe quelle peinture, si c'est pas une peinture recyclée, donc Circouleur, ce n'est pas une peinture écologique parce qu'il y a toujours l'extraction de la matière première qui est souvent en fait loin d'ici, c'est-à-dire en Afrique du Sud ou en Australie. Donc il y a aussi l'impact pour la faire via l'extraction, il y a faire venir ici la matière première, la fabrication, et ensuite il y a le traitement à la fin du chantier, c'est-à-dire l'incinération. Et donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est aussi que c'est l'analyse du cycle de vie. Une autre solution qui est possible pour avoir une peinture plus saine, c'est la peinture biosourcée. Voilà, mais c'est un produit qui est très différent d'une autre parce que nous on est sur une gamme recyclée, donc ce sont des produits recyclés. On fait pas d'extraction de la matière première, alors que les produits biosourcés, enfin, il y en a de plusieurs types. C'est quand même, il y a quand même pour moi, c'est de l'élevage, c'est de l'extraction de la matière première. Mais moi, je suis très, 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 très stricte sur ces genres enfin, j'ai une idée très, très fixe. Pour moi, c'est vraiment tout ce qui est extraction de la matière première, c'est nocif pour la terre. Donc, c'est pour ça que je suis sur une démarche recyclage zéro déchet, parce que justement, je suis contre tout ce qui est extraction de la matière première, même si ça soit une peinture saine. En revanche, le biosourcé, c'est aussi une peinture comme la nôtre, c'est une peinture extrêmement saine, donc qui s'adapte bien, par exemple, pour les chambres d'enfants.
Ok. Ce qui diffère, effectivement, c'est cette histoire d'extraction qui fait que il y a une partie chez eux qui extraite, quoi.
Tout à fait. Après, l'autre avantage de Circouleur, qui peut être le cas aussi de certains fabricants en biosourcés, c'est le circuit court. Parce que chez Circouleur, tout est fait en France. La matière première vient d'à côté de chez nous. Le laboratoire, c'est en Nouvelle-Aquitaine. La fabrication, c'est en Nouvelle-Aquitaine. L'étiquetage de peau, pareil. Et donc après, on revend sur le territoire français. Donc on est vraiment sur un circuit court. On favorise le télétravail. Voilà, je suis la preuve. On fait des petits déj écolo pour pouvoir avoir des bons plans entre nous et pouvoir échanger de tout type de tips.
Pour pouvoir avancer sur la démarche et vous apporter mutuellement les uns les autres.
Exactement.
Et du coup, j'ai une dernière question pour toi, Naomi. Est-ce que tu as une vision, c'est quoi ta vision de demain sur justement la peinture responsable? Est-ce que tu penses que ça va se développer? Est-ce qu'il y a un marché qui va arriver? Comment tu vois le marché de la peinture dans quelques années?
Le marché de la peinture recyclée est déjà là. Nous, on le voit, que ça soit dans notre gamme grand public ou la gamme professionnelle. Tout le monde adore nos peintures. Moi aussi, j'ai peint ma maison en Circouleur et j'en étais ravie. Vraiment, au-delà du fait que je pouvais peindre à côté de mes enfants, ils pouvaient être à côté de moi parce que c'est une peinture saine qui ne leur fait pas mal. Au-delà de ça, c'est la peinture recyclée en fait permet d'avoir une réponse aux enjeux écologiques qu'on a aujourd'hui. Plus en plus des gens commencent à être sensibles et chercher des solutions moins polluantes pour la planète. Et si il y a un bricoleur du dimanche qui veut aller, qui arrive à côté de son grand surface de bricolage à côté de chez lui, qui cherche une solution et en rayon, il voit une peinture, que ça soit à la fois écologique et aussi pas forcément plus cher qu'une peinture haut de gamme, et il a fait bingo.
Parce qu'aujourd'hui, les peintures recyclées, est-ce qu'elles sont au niveau du tarifaire d'une peinture, justement, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'au niveau du budget, il y a une différence pour le consommateur, ou est-ce que c'est plutôt équivalent, ou il y a un petit effort à fournir ou...
Le principe que nous, on voulait accomplir avec notre peinture, c'était de rendre une peinture écologique et qualitative au prix pour tout le monde. Quand tu vas dans un rayon de bricolage de peinture, dans le rayon peinture, tu as l'entrée de gamme avec un prix, tu as le haut de gamme avec des prix qui vont jusqu'à 50-60 euros le pot de 2,50. Et après, entre les deux, tu as Circouleur. L'idée, c'est de pouvoir vraiment rendre accessible. C'est vraiment l'esprit de nous tous, de notre entreprise, c'est de pouvoir la rendre accessible à tous. Et on est vraiment toutes et tous des personnes hyper engagées dans l'équipe. Et le but, ce n'est pas forcément c'est faire du fric, comme on dit, mais c'est vraiment pouvoir rendre notre planète meilleure pour tous.
Et apporter une solution qui puisse correspondre à chacun. C'est un très beau projet. C'est un très beau projet. Merci Naomi. Je te propose de passer à la phase action, si tu es d'accord. Il y a tellement de questions que j'aimerais encore te poser, mais là, on va faire un épisode de 2 heures sinon. Donc, sinon, tu reviendras sur le podcast, nous expliquer la fin de ton chantier.
Voilà.
Et concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Alors, je te propose phase action. Nos éditeurs, en fait, ils ont un projet de peinture pour leur habitat. Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Un conseil concret, qu'est-ce que tu peux leur conseiller ?
En peinture, mais plus déco ou plus
Déco, peinture. Alors après, ça peut effectivement, ils ont un projet de maison énergétique, ça peut soit se faire sur le projet de maison, soit sur le projet peinture.
Moi, personnellement, si quelqu'un a envie de changer, de faire quelque chose de joli, mais à des prix moindres, un pot de peinture Circouleur avec une jolie couleur un peu argile ou koala ou bois de rose, enfin, ça dépend des goûts de chacun. Je pense que c'est une partie de mur. Par exemple, moi, j'aime beaucoup, maintenant, je vois souvent sur Pinterest les arcs. Par exemple, autour des portes, on repeint une partie du mur et je trouve ça très joli. Et du coup, ça cogite aussi dans ma tête pour pouvoir faire quelque chose comme ça chez moi.
tu as des astuces justement pour bien choisir sa peinture ou bien choisir sa couleur de peinture plutôt?
Moi, je dirais suivre. Moi, mon astuce, c'est aller sur Pinterest. Moi, c'est vraiment ma base, Pinterest. J'ai plein de petits tableaux où j'ai tous les différentes thématiques et taper le nom de la couleur et le nom de la pièce que tu veux repeindre dans cette couleur. Et ça te permet d'avoir vraiment de pouvoir visualiser mieux, parce qu'une difficulté que nous avons en tant que particulier, c'est de pouvoir se projeter, de voir une couleur sur un petit échantillon de 2 cm et dire, eh ben, est-ce que ça va être bien dans notre chambre? Ça, c'est très difficile. Et moi, j'utilise Pinterest de cette manière pour m'aider à me projeter comment cette couleur pourrait bien aller dans ma pièce.
Ok, c'est noté. Donc, allez sur Pinterest pour faire votre choix de couleur.
Exactement.
Et c'est vrai que c'est très très utile pour la question décoration et aménagement. Il y a beaucoup d'idées.
Ça c'est un problème de décoration, enfin des particuliers qui ont envie de refaire quelque chose mais ils savent pas où partir, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas, par exemple, on peut pas juste prendre un architecte pour nous faire une mise en situation d'une pièce. Ça nous coûterait une blinde. Donc ça, c'est un astuce que moi j'utilise pour dire, est-ce qu'un canapé couleur cuir pourrait aller dans mon salon où j'ai déjà du parquet, par exemple. Et ben là, je tape du coup la recherche en anglais, parce qu'il y a plus d'informations en anglais. Le moteur de recherche de Pinterest en anglais, il est plus complet par rapport au français. Donc je tape ma recherche en anglais en mettant les mots clés living room, wood floor et leather couch, tu vois, par exemple.
Ok, c'est à noter parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Donc c'est un bon petit, une bonne petite astuce. Et du coup, on a une petite question signature dans ce podcast. C'est dans ta vision, dans le meilleur des mondes. Je pense que j'ai une petite idée, mais pour toi, quel est ton bercail idéal?
C'est le Beaujolais et ma nouvelle maison. Surtout que j'ai un bercail dans le terrain. On a une petite dépendance qui a été utilisée pour les vaches et les moutons jusqu'à il y a quelques années. Donc tu vois, c'est pas
c'est super drôle ça.
Et c'est là d'ailleurs, c'est le petit astuce que je garde pour la fin, parce que tout le monde va dire voilà, c'est simple comme ça. C'est là où nous avons stocké tous les matériaux du remploi au fur et à mesure qu'on les trouvait. Donc la cuisine, le parquet, les lames de terrasse, le carrelage, le luminaire, etc.
Donc le bercail a servi pour construire le plus grand.
On n'aurait pas pu faire sans.
Oui, il faut absolument, effectivement, prévoir
un
espace de stockage pour ce genre de projet, quoi.
Oui.
Ok. Et est-ce que tu aurais des sources à nous partager, comme des podcasts, newsletters, chaînes YouTube, livres, ou pourquoi pas des invités que tu aimerais voir un jour sur cette chaîne?
Moi, je vous conseille d'inviter Julie Tellet, donc mon architecte, que au-delà d'être une personne merveilleuse d'un point de vue humain, c'est une personne qui a beaucoup de compétences et elle croit beaucoup donc dans cette nouvelle filière, et elle se déploie énormément tous les jours pour justement démocratiser leur emploi des matériaux chez les particuliers. Donc sans elle, je n'aurais pas pu le faire.
Ben voilà Julie, l'invitation est lancée si tu nous entends. Voilà. Je te contacte bientôt.
Voilà. Et je te donnerai tes coordonnées. Et aussi en livre, moi il y a un livre qui m'a beaucoup plu. C'est le classique, hein. Ça fait partie de la famille presque zéro déchet, mais c'est le livre sur la transition, réussir sa transition écologique. Et j'ai lu récemment celui sur les zéro déchet. Mais si on a déjà en démarche, c'est intéressant. Mais si on a déjà en démarche zéro déchet, la plupart des choses, on va dire, c'est du connu. En revanche, sur le bouquin sur réussir la transition écologique que j'ai lu en 2020, ça m'a beaucoup inspiré.
Est-ce que tu as l'auteur de ce livre ou?
Ouais, je vais te dire, mais ça fait partie de la famille zéro déchet. Et c'est Jérémy Pichon.
Ok.
Jérémy Pichon et Bénédicte Moret avec un T à la fin.
Très bien, c'est noté.
Voilà.
C'est noté pour les ressources sur lesquelles s'informer si on a envie de parler réemploi, transition et optimiser sa maison.
Voilà. Et si les gens peuvent, ont envie d'être aidés, moi, je suis à leur disposition. Vraiment, mon principe, c'est vraiment de pouvoir démocratiser leur emploi et montrer que c'est possible, même si on est des petites particuliers avec un, entre guillemets, allez, un petit budget, et c'est possible. C'est tout à fait possible.
Et du coup, si ces personnes veulent te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver ou te poser ces questions?
Alors, sur LinkedIn. Et sinon, je peux mettre mon adresse email à la fin. Ou sinon aussi sur Instagram, parce que j'ai un compte Instagram qui s'appelle Ma Maison Circulaire, avec tiré du 8. Et Ma Maison Circulaire sur Instagram.
Voilà. Je mettrai tout ça de toute façon. Je l'indiquerai. Donc, adresse mail, LinkedIn, donc Naomi Scherer. Si je me trompe pas.
Voilà, LinkedIn, c'est facile.
Voilà. Naomi Scherer. Et puis Instagram et mail pour retrouver Naomi. En tout cas, merci beaucoup d'être venue sur ce podcast, de nous avoir expliqué ton projet. C'était super intéressant et on sent que tu es passionnée par ce projet et par cette ambition de vouloir changer les choses. Donc, bravo à toi.
Merci Caroline.
Et puis de toute façon, on se retrouve très vite et je suis sûre qu'on aura encore plein de sujets à échanger.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Encore merci Naomi pour ce témoignage sur l'utilisation du réemploi pour construire ou rénover ta maison, mais aussi sur la possibilité aujourd'hui de trouver des peintures saines et complètement recyclées. Si tu as aimé l'épisode, tu peux soutenir Obercaille en nous laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais qu'on aborde. Et si on co-créait Obercaille ensemble ? Si tu te dis « Oh non, l'épisode est déjà terminé », tu peux vite nous retrouver sur le site www.obercaille.co et y retrouver tous les sujets abordés dans ce podcast. À très vite !